Bonjour à tous. Donc un petit podcast pour relater les statistiques et les chiffres de la pédocriminalité en France et notamment avec les chiffres 2022. Donc il y aura la partie police-gendarmerie en premier avec un article qui s'appelle Omerta sur les chiffres de la pédocriminalité en France plus 10% en 2022, suivi d'un autre article où on a exploré les statistiques du ministère de la Justice cette fois, et donc le premier c'est le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle Chiffres de la Justice 2012-2022, les viols explosent et la réponse pénale diminue. Voilà, ces deux articles ont été publiés en août 2023 pour le premier et en octobre 2023 pour le deuxième. Allez, on y va. Omerta sur les chiffres de la pédocriminalité en France, plus 10% en 2022. Les chiffres de 2022 plus 10% seront peut-être les derniers rendus publics. Le gouvernement ne diffuse plus publiquement les chiffres de la pédocriminalité en France. Pas de stats, pas de problème. Wanted Pédo est la seule structure en France à traiter et publier des statistiques précises sur la pédocriminalité en France avec les chiffres disponibles 1996-2022. Donc je vous incite à notamment écouter le dernier podcast qu'on avait fait qui regroupait sur pareil sur les chiffres et les statistiques, qui regroupait l'ensemble des articles publiés sur le sujet depuis la création de l'association jusqu'à voilà, 2020-2021, on va dire. Donc c'est un peu la suite de ce premier podcast live. On rappellera que l'Institut chargé de l'étude de ces statistiques, pour le gouvernement, l'INHESJ ou NRDP, a été purement et simplement supprimé par Macron en 2019. Je vous renvoie au lien où on décrivait ça. Donc, l'index 4001 n'est plus mis à jour depuis octobre 2022. L'index 4001 répertorie les faits constatés par les services de police et de gendarmerie, les infractions sur l'ensemble du territoire français et se base sur le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, donc en gros le service statistique du ministère de l'Intérieur, SSMSI. Il détaille notamment les viols sur mineurs et les agressions sexuelles sur mineurs pour chaque mois et pour chaque département. C'est ça qui faisait que c'était intéressant. Pour aller plus loin sur nos travaux antérieurs sur le sujet, voyez cette partie du site, donc je vous renvoie à la partie statistique, où vous mettez un mot-clé, par exemple statistique, chiffres, vous trouverez. Mais depuis octobre 2022, les données ne sont plus mises à jour sur le site gouvernemental dédié. Voilà, que ce soit sur le site de ministère de l'Intérieur ou sur data.gouv.fr, qui est censé être le site qui rassemble toutes les données dans un esprit d'open data, enfin en tout cas pas d'open data, mais de si d'open data, c'est-à-dire que les institutions sont censées être transparentes sur les données qu'ils ont à leur possession et doivent les rendre publiques, voilà, un minimum en anonymisant, mais quand même. Et donc on voit bien qu'effectivement, dernière mise à jour 31 octobre, qualité des métadonnées, fréquence de mise à jour non respectée, format de fichier non standard, couverture temporelle non renseignée, bon, surtout non mis à jour. Donc on avait un dernier espoir pour obtenir les données de septembre à décembre 2022 qui manquaient, en fait il manque juste le dernier trimestre, résidait dans la publication d'un numéro spécial, numéro 54 d'Interstat, fin janvier 2023. Voilà, donc on aurait pu imaginer, c'est une sorte, c'est environ la newsletter du SSMSI, qui a été reprise en fait dans la presse avec les chiffres de la criminalité 2022. Donc j'ai mis un lien d'article, donc en l'occurrence Le Parisien, mais il y en a eu une volée, comme d'habitude, tout le monde se recopie. Sauf qu'en fait, il n'y a pas la source. Et puis quand on regarde un peu plus clairement, on a la mauvaise surprise de constater que en fait toutes les violences sexuelles sont réunies dans une seule catégorie, ne différenciant plus, par exemple, des actes commis sur des mineurs et sur des majeurs. Alors que c'est quand même pas tout à fait la même chose, ni leur nature, viol, agression, atteinte sur mineur, non, bah tout ça est mis tout ensemble. Et puis même en fait, violence sexuelle, ça va même recouvrir, on va mélanger la violence conjugale, puis des viols d'enfants. Voilà, ça dérange personne, tout le monde trouve ça normal. Vous voyez? Quand on regarde l'indicateur, donc violence sexuelle, donc effectivement, puis alors on a quand même un sous-indicateur viol et tentative de viol, mais toujours mélangeant majeur et mineur. Autre agression sexuelle, y compris harcèlement sexuel, mais toujours mélangeant majeur et mineur. Donc ce n'est d'aucune utilité. La seule information qu'on aura dans le corps du texte est que la proportion des violences sexuelles commises plus de 5 ans avant l'enregistrement augmente notamment pour les mineurs. Donc 19% en 2018, 23% en 2020, 26% en 2022. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, des gens qui arrivent pour porter plainte pour violences sexuelles sur mineurs, La proportion de ceux-là où le crime date plus de 5 ans, donc en fait, vous imaginez, donc quelqu'un de 13 ans, aujourd'hui il a 18 ans, quelqu'un de 16 ans, du coup, ça veut dire qu'il a 21 ans. Enfin bref, ça veut dire qu'en fait, entre guillemets, c'est un indicateur que la parole se libère un peu, ou en tout cas, qu'effectivement, on commence à sortir du placard un certain nombre d'affaires qui datent un peu, où voilà, les mineurs ou leurs parents ne les emmènent pas au commissariat ou à la gendarmerie directement après les faits, mais ça sort plus tard. Alors est-ce qu'ils l'avaient dit à l'époque, ça n'a pas été entendu, ou est-ce qu'ils ne l'avaient pas dit, et puis finalement 5 ans plus tard, ils le disent, enfin, ou plus de 5 ans plus tard. Voilà, bon, en tout cas, dans l'absolu, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Ce qui reviendrait étayer une libération de la parole massive, justifiant à elle seule l'augmentation des chiffres. Et oui, c'est un peu le piège médiatique qu'ils nous disent tout le temps. C'est de dire, ah mais regardez, finalement, vous voyez, ça augmente énormément, mais en fait, c'est des vieux crimes. Ou c'est juste parce que les gens parlent plus qu'avant, ce qui ne fait pas disparaître les crimes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on en parle plus que ça les fait disparaître, ça fait juste qu'on en voit plus. En tout cas, c'est ce qui est fortement suggéré dans l'article, et ce n'est pas la première fois. Je vous renvoie à un article qui s'appelait « La pédocriminalité explose encore et toujours en France en 2021 », qui parlait de ça, mais c'est également dans le live que je vous indiquais. Pour autant, rien ne le prouve. En fait, le taux de plainte présenté pour les violences sexuelles hors cadre familial reste à 9% de manière cohérente avec toutes les études de victimation réalisées ces 20 dernières années. Donc, c'est-à-dire que pour les abus sexuels sur mineurs, alors je vous ai mis le PDF pour vous vérifier vous-même, hein, donc page 7. Nous, de tous les chiffres qu'on a pu constater, que ce soit dans les études de victimation faites par les associations, notamment mémoire traumatique et victimologie, que ce soit dans d'autres sondages qui avaient été commandés par AIVI, ou que ce soit dans les études du ministère de l'Intérieur, cadre de vie et sécurité, ou que ce soit, bref, grosso modo, on est toujours sur une fourchette de taux de plainte pour les abus sexuels sur mineurs entre, on va dire, 8 et 10%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8 et 10% des abus sexuels sur mineurs qui ont pour suite une plainte, donc on va dire en gendarmerie ou en police. Voilà. Ou au parquet directement. Donc ça, c'est relativement cohérent. On peut quand même signaler que dans les enquêtes cadre de vie et sécurité, ils disent que c'est un petit peu moins. On est entre 5 et 8, on va dire. Et puis, il y a des estimations qui vont même sur les 12%. Donc nous, grosso modo, pour vous situer là-dessus, nous, on reste de manière prudente sur un taux à une personne sur 8, 8% pardon, des victimes qui vont porter plainte. Voilà. Puisque après, quand on estime ça, bah, si on prend seulement 10% des gens qui portent plainte ou 12% des gens qui portent plainte, et bah, effectivement, ça va faire augmenter ou diminuer l'estimation. Voilà. Si par exemple, on décide que le taux de plainte, enfin, on prend comme taux de plainte 10%, bon, bah, du coup, pour estimer les actes réels, on multiplie par 10. Vous voyez? Alors que, voilà, pour 8%, et pour 12%, ça change un petit peu le taux. On continue. Une base de données à l'échelle communale. Parallèlement, on constate l'apparition d'une autre base de données, que l'index 4001 comme il était avec ses index bien faits, à l'échelle communale. Alors c'était une chose que nous on demandait depuis longtemps, puisque on aurait aimé aller plus en détail plutôt que l'échelle départementale, par exemple à l'échelle d'une ville. À voir si sur une agglomération de 300 000 habitants, on a des taux qui sont beaucoup plus élevés ou pas, ou est-ce qu'on trouve entre guillemets des nids à pédos ou des cultures locales qui sont plus permissives ou des choses comme ça. Sauf que les données sont partielles, soi-disant pour protéger les victimes. Alors écoutez bien, pas facile à intégrer direct. Les données diffusées donc à l'échelle communale sont limitées aux communes pour lesquelles plus de 5 faits ont été enregistrés pendant 3 années successives. Donc toutes les petites communes, c'est mort pour des faits comme ça. Cette précaution est motivée par le secret statistique qui ne doit pas permettre, par le croisement des multiples sources, de déduire les informations individuelles sur les personnes concernées dans ces procédures. Alors ça sous-entendrait que tu vas aller chercher dans le fichier statistique des trucs par commune, essayer de recouper ça avec quoi? Avec des articles de journaux, où de toute façon ils donnent pas les noms, etc. Pourquoi? Pour arriver à retrouver l'identité d'un condamné? Enfin bon, cette précaution doit notamment être appréciée au regard de la sensibilité de certaines atteintes comme les violences sexuelles. Enfin honnêtement, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, à la limite, il suffisait de faire des regroupements par communauté d'agglos, enfin, et puis Bah, voilà, donc là, on est donc 5 faits ont été enregistrés pendant 3 années successives. Donc ça sous-entendrait quand même qu'on doit pouvoir avoir ces faits pour des grandes communes. Donc pourquoi pas? On se dit bon, ok, pour les petites, c'est trop petit. Bon, d'accord. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir des villes moyennes, des villes de 15 000 habitants, etc. Et là, encore, problème. De toute façon, on n'aura même pas l'occasion de le faire, puisque la catégorie violence sexuelle vient invisibiliser les violences sexuelles sur mineurs. Donc c'est totalement inexploitable. Super. Mais là, la qualité des métadonnées est bonne. La dernière mise à jour, c'est 19 juillet. Donc on est super. On a une base communale qui a complètement gommé, effacé les infractions sexuelles sur mineurs. C'est parfait. C'est pas comme si on en parlait tout le temps à la télé. Il est bien dommage de ne pas avoir les chiffres par commune, car on pourrait voir émerger des bassins de pédocriminalité où d'éventuels réseaux se fourniraient en enfants, par exemple. Les disparitions d'enfants de moins de 15 ans, ce sera intéressant. Ou encore mieux, de moins de 10 ans, excluant majoritairement les fugues définitives. Et oui, si on pouvait avoir accès aux disparitions d'enfants de moins de 10 ans, de manière assez précise au niveau géographique, voilà, des gens qui ont les moyens pourraient faire de l'investigation là-dessus. Je parle notamment des services de police et de gendarmerie, évidemment, spécialisés s'ils existaient. Nous avions déjà tenté d'obtenir ces chiffres à l'échelle d'un département, notamment des disparitions de mineurs, en vain, en recevant des réactions plutôt grotesques de l'administration. Je vous renvoie à l'article qui s'appelait « Enfants disparus, personne ne doit savoir ». Donc, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui encore, hein, vous n'avez aucun chiffre sur les enfants disparus, ni ventilés par département, ni par âge, ni par rien du tout. Voilà, si vous avez la source, on la prend. Avec plaisir. La CADA, un recours. Alors, la CADA, c'est quoi? C'est la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, lors de notre dernière manifestation en 2021 devant le ministère de la Justice à Paris, une membre de l'association, également mère de victimes, avait évoqué la possibilité, quand on parlait de toutes ces statistiques, de forcer un petit peu, entre guillemets, l'administration à nous donner ces chiffres via la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Donc en fait, c'est une sorte de truc qui a été mis en place, peut-être suite à l'Europe, j'en sais rien, mais qui veut un peu mimer ce qui se passe dans la sphère anglo-saxonne, où par voie d'avocat, on arrive à obtenir des choses que l'administration ou le gouvernement ne veut pas produire, pour cacher bah, des malveillants, des corruptions, des choses comme ça souvent. Et donc notamment le fameux Freedom of Information Act aux États-Unis, qui permet d'avoir accès comme ça à des documents. Donc, eh ben, on lui avait dit le jour même, hein, on était sans illusion sur cette CADA, on lui a dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, et comme d'habitude, pour vous montrer à vous le public et à tous les gens qui n'ont pas les moyens, et le temps et l'envie de faire ça, on le fait pour vous montrer que ça marche pas. Bah oui. Et nous avons donc tenté le coup sans se faire d'illusion avec une demande en bonne et due forme. Donc je vous mets le formulaire de saisine avec ce qu'on demande, les dates de signalement des disparitions. Donc on demandait les dates de signalement des disparitions d'enfants, à la limite l'année ça aurait pu suffire, mais bon peu importe, donc 2000-2020, la commune d'habitation et ou du signalement de la disparition, où est-ce que l'enfant a disparu, le département, s'il n'y a pas la commune du département, et si possible l'âge en année de la personne disparue au moment de cette disparition, concernant les services de police et de gendarmerie. Okay? Donc ils ont bien reçu le récépissé. Nous avons aussi doublé cette demande directement au service statistique du ministère de l'Intérieur, puisqu'a priori c'est eux qui ont ces statistiques. Qu'on puisse pas nous dire que ça servait à rien d'appeler la CADA alors que le ministère nous l'aurait donné. Bon, bref. Résultat des courses. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre qu'en France, en 2023, on est capable de savoir combien de pots de yaourt sont produits chaque jour de l'année, mais on n'est pas capable de connaître le nombre d'enfants qui sont disparus. Voilà, vous avez la copie du mail. Les policiers et les gendarmes de France qui constatent ces disparitions et qui certainement remplissent des jolis fichiers dans des jolis logiciels adéquats et remplissent jour après jour les bases de données informatiques seront ravis de l'apprendre. Évidemment, les données existent, hein. Quand on vient signaler à une gendarmerie ou à un commissariat que son enfant a disparu, évidemment que c'est mis quelque part, évidemment que ça rentre dans un tableau. Donc ces données existent, il suffirait de demander à un stagiaire de faire une extraction. Et vu que la CADA ne sert visiblement à rien, vous ne saurez pas où les enfants français disparaissent, on est content de payer leur salaire pour rien. Donc la réponse, excusez-moi, je voulais pas bien lu, c'est en gros, ces données n'existent pas. Hein? Bah oui, bien sûr, ces données n'existent pas. Et alors après, c'est toujours la même chose. Ah non, mais vous comprenez, ça n'existe pas tel que. Ah oui, c'est pas la date. On n'a pas la date, on a l'année. Donc on peut pas vous le donner, la blague. Tu vois. N'importe qui demanderait, un député demanderait, n'importe qui demanderait. Il n'y a pas de souci, on ferait l'extraction, même partielle, mais on fera l'extraction, quoi. Voilà. Et on peut rajouter que effectivement, en quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'il y a des disparitions de mineurs non élucidées, inquiétantes. Il y en a effectivement, enfin, le dernier chiffre qu'on avait, il y en avait 50 000 par an. Il y en a 49 000, c'est des fugues, c'est des gens de plus de 15 ans qui vont faire leur vie ou qui disparaissent ou qui sont assassinés, on n'en sait rien. Mais il y en a quand même un certain nombre qui, entre guillemets, qui sont retrouvés. Mais il y en a quand même 1 000 sur ces 50 000. Donc ça, c'était les derniers chiffres qu'on avait, ça datait d'au moins 5 ans, qui ne disparaissent, qui ne sont jamais retrouvés. Voilà. Et ça, on peut pas savoir l'âge de ces gens, de ces enfants. Y a pas de. On a une statistique au niveau national qui avait été donnée par un député qui avait demandé la statistique, mais c'est tout. On n'a jamais pu avoir plus de détails. Pareil pour les enterrés sous X. Donc, on retrouve des cadavres dans la nature, on les déterre. On détermine même certainement si c'est un enfant ou un adulte. On pourrait même faire des empreintes génétiques aujourd'hui, les empreintes, les trucs dentaires, etc. Mais en fait, il y en a 1 000 par an, mais on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas qui c'est des enfants, des adultes, on ne sait pas. Voilà, il n'y a pas de statistiques là-dessus. Si vous avez des statistiques sur les enterrés sous X, ça nous intéresse. Quel département, quel est l'âge donné par le médecin légiste suite voilà, à l'état du cadavre, l'année supposée où le cadavre a été enterré à cet endroit-là, est-ce qu'il y a des signes de violence, est-ce qu'il y a des signes sur les os, est-ce qu'il y a des. Voilà. Donc, bref. Tout ça, on l'a pas. Donc, ils vont même, la CADA, reprend, dans leur justification de refus, aller jusqu'à se moquer de nous, en commençant par dire que les données peuvent être communiquées, contrairement à ce que fait le SSMSI dans la base communale. Donc eux ils disent non, non, il n'y a pas de souci. Elle estime que la communication des éléments demandés à des tiers n'est pas en elle-même de nature à porter atteinte au secret protégé par les points FG de l'article 311.5 mentionné au point précédent. Donc il dit non, c'est bon, on pourrait communiquer ça à des tiers, il n'y a pas de souci. Et même de rajouter que elle indique ensuite, je cite, elle indique ensuite qu'en application du même article, les documents qui entrent dans le champ des exceptions, hein, peuvent néanmoins être communiqués à des tiers lorsqu'il est possible d'occulter ou de disjoindre les mentions qui ne sont pas communicables aux tiers après occultation ou disjonction de ces mentions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah oui, c'est pas parce que dans la base de données il y a marqué le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse des personnes que tu es obligé de les donner. Hein. Il suffit de faire dans ton tableau Excel ou ta base de données, tu fais supprimer tel champ. Et tu donnes que les champs qu'on demande. Enfin, c'est le principe d'une base de données. Il suffit de faire des requêtes. Enfin, c'est le principe de faire des requêtes dans une base de données. Tu dis, ben moi je veux tout, les disparitions élucidées, non élucidées, inquiétantes, toujours en cours, avec les dossiers toujours ouverts, à la date de temps, pour les gens qui ont une date de naissance avant temps. Enfin bref, une base de données, quoi. Pas comme si c'était inventé l'année dernière, hein. Ça fait des dizaines d'années que tout le monde travaille là-dessus. Donc, grosso modo, l'administration a le devoir de disjoindre les données sensibles pour communiquer les infos, faire une extraction partielle de données en enlevant l'adresse et les noms, ce que je viens de dire. Pour finir par nous dire quoi, à la fin, ce qui est totalement un non-sens, je cite, la commission précise que seule l'anonymisation du document sollicité permettra en l'espèce de garantir le respect des dispositions précitées. Oui, ben, il n'y a pas de souci, on n'a jamais demandé les noms et les adresses des gens. Je vous renvoie quand même à la demande. On demande la date de signalement de la disparition, la commune, le département, l'âge. À quel moment on demande l'adresse, le nom et le prénom. Jamais demandé ça. Hein? Donc oui, effectivement, c'était sous-entendu que c'était données anonymisées, évidemment. Donc, elle estime que les informations demandées, compte tenu de leur degré de précision, de leur sensibilité et du nombre réduit de personnes auxquelles elles se rapportent, sur la période 2000-2020, bien sûr que non, sont de nature à permettre d'identifier par recoupement les personnes intéressées et d'avoir ainsi accès à des informations concernant leur vie privée ou celle de leurs proches. Mais n'importe quoi. Par conséquent, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande. Donc là, ils sont en train de nous faire croire, d'essayer de nous faire croire, qu'en ayant les disparitions inquiétantes non élucidées de mineurs de 15 ans en France sur la période 2000-2020, en précisant donc l'année, on va dire, ah oui, la date, alors bon, l'année, la commune, le département et l'âge, on arriverait à recouper, pourquoi? Pour retrouver les familles d'enfants disparus? Comme si on avait, c'est quoi, on va avoir 3 000 personnes partout en France pour essayer d'aller voir tous les cold cases d'enfants disparus en France des 20 dernières années? Enfin, ils disent complètement n'importe quoi quand même, là, c'est un délire. C'est juste un délire. Alors qu'à aucun moment nous ne demandons de données personnelles. Et à aucun moment nous ne cherchons à utiliser ces données pour retrouver des gens, ni victimes ni agresseurs d'ailleurs, mais simplement attirer l'attention des services de police et de gendarmerie sur des éventuels points chauds de disparition de mineurs de moins de 15 ans en France. Eh oui. Espérons que les brigades spécialisées, qui n'existent pas vraiment, ont ce genre de données en leur possession, mais nous en doutons fortement. Hein? Notre requête était pourtant claire, nous ne demandions que quatre champs de la base de données, date, lieu, département, commune et âge. On parle bien de colonnes d'un tableau Excel à supprimer là. Hein. Oui, c'est bien de ça qu'on parle. Ou d'une base de données Microsoft, enfin bref. Access. Chiffre 2022. Bon, passons sur ces histoires. Mais comme on est gentil, motivé, inventif et compétent, on a trouvé une manière de vous présenter ces chiffres, malgré tout. Peut-être pour la dernière année, du coup, faute de données. C'est réellement un scandale incroyable vu la couverture médiatique importante qui est faite de la pédocriminalité grâce à nos lectrices, journalistes féministes qui peuplent les rédactions et que nous remercions pour leur travail par là même. Dans les faits, nous avons simplement repris les moyennes mensuelles sur les données 2000-2019. Donc voilà comment on va arriver à les obtenir. On exclut 2020 et 2021 à cause des perturbations dues au Covid, déjà documentées dans un autre article, donc celui sur les données 2021. Et donc on a pris ces données, donc qui sont données par mois, 2000-2019, et donc on a modélisé, extrapolé, en gros fait une moyenne, sur cette base des chiffres manquants pour les 4 derniers mois de l'année 2022. Donc en fait on fait la moyenne des viols sur mineurs ou des agressions sexuelles sur mineurs qui arrivent sur septembre, octobre, novembre, décembre, tous les ans depuis 20 ans. On regarde quel est le niveau moyen des viols sur mineurs et des agressions sexuelles sur mineurs pour l'année 2022 sur les trois premiers trimestres. On compare ça aux trois premiers trimestres 2000-2019 à la moyenne. On extrapole, on fait un petit modèle de rien du tout et on arrive, entre guillemets, à estimer de manière assez précise, vu l'augmentation des données en 2022 sur les trois premiers trimestres, combien logiquement il devrait être sur le quatrième trimestre 2022 en fonction de ce qui se passe d'habitude de 2000 à 2019. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ce sont des chiffres avec des très grandes masses de données. On parle de milliers et de milliers et de milliers d'actes répertoriés par des milliers de gendarmes, de policiers et traités par des milliers, enfin, par des milliers de juges, etc. On ne peut pas tricher là-dessus, en fait. Vous voyez, c'est des grandes masses, ça change de manière toute doucement. C'est des inerties importantes. Et encore là, on constate des augmentations incroyables. On peut pas dire, ah maintenant, par exemple, les viols sur mineurs, c'est que 30%, ou c'est 50%, 70%. En fait, non. C'est impossible que ça varie dans de telles proportions. Soit on regarde mal les chiffres, mais si on les regarde bien, enfin, ça va pas passer du simple au double en une année. C'est juste pas possible. Vous voyez? Donc revenons à ce qu'on obtient. Donc ainsi, on obtient une augmentation de 10% des abus sexuels sur mineurs entre 2021 et 2022, ce qui est énorme. Avec donc 48 300 actes au total, ça fait quand même une augmentation ça a plus que triplé, 340% en 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. On était à 15 000 en 2000, on est à presque 50 000 en 2022, quoi. Donc ceci se ventile entre 19 853 viols sur mineurs, une augmentation de 8,6%, et 28 457 agressions sexuelles, donc augmentation de plus 10,5% en un an. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, 10% en un an, mais c'est énorme. Enfin, là on pleure pour l'inflation des prix, mais on sais même pas si on est à 10% par an, quoi. C'est 10% d'une année sur l'autre, d'une année sur l'autre. Alors vous reprenez les 10%, c'est par rapport à l'année qui a déjà augmenté l'année dernière, qui a déjà augmenté l'année d'avant. Vous voyez, les pourcentages, c'est d'une année sur l'autre, c'est pas. Donc c'est vraiment beaucoup, quoi. Cette augmentation confirme la tendance de fond, plus 12% par an sur la dernière décennie, et l'hypothèse émise l'année dernière, donc dans le même article de 2021, que la très forte augmentation de l'année 2021, plus 38%, n'a été qu'un rattrapage partiel des éventuelles plaintes qui n'auraient pas pu être déposées en 2020 à cause du confinement. Donc effectivement, si vous voyez la courbe, si on prolonge la courbe, on voit quand même qu'il y a un creux au niveau de 2020, entre 2019 et 2021, et que si on fait une courbe de tendance, c'est-à-dire qu'on essaye de lisser un petit peu ces données, il y a vraiment eu un effet important du Covid qui a, entre guillemets, empêché un certain nombre de plaintes d'être posées, et pour une partie, et pour une autre partie, peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de plaintes qui n'ont pas été posées en 2020, qui ont été posées en 2021-2022, mais c'est vraiment un rattrapage partiel. Hein, comme on le voit, si c'était un rattrapage total, entre guillemets, bon, bah, tout ce qui manque en 2020, on devrait le retrouver en 2021-2022. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, si tout le rattrapage de 2020 a été fait en 2021, alors les données devraient stagner ou même diminuer. Vous voyez, puisqu'on aurait eu 2 années en une. On aurait eu 2020-2021, tout en 2021. C'est pas le cas. Ça continue à augmenter. Donc, c'est vraiment que partiel. Ce rattrapage dû au Covid, il n'est que partiel. Pour les viols sur mineurs de 15 ans, ce rattrapage partiel pourrait être estimé à environ 4%, on peut arriver, donc avec cette courbe de tendance et cette moyenne lissée sur les différentes années, à estimer le poids de ce rattrapage partiel, donc différence avec la moyenne décennale, mais il reste à quantifier plus précisément avec les chiffres 2023, qu'on n'aura peut-être jamais. Par contre, si on fait le bilan, l'augmentation en 2021 de 36%, donc elle peut se décomposer avec la même technique que ce que je viens de dire, en 12% d'augmentation annuelle. Voilà, on peut estimer. Ça, c'est des hypothèses de notre part. Hein. On peut estimer. Donc, si c'est la même moyenne, la même tendance de fond de 12% d'augmentation par an, donc 12% sur ces 36%, c'est la tendance de fond, 4% de rattrapage, et donc on a bien le rattrapage de 2020 à cause du Covid. Mais on a bien 20% restant qui pourrait être dû à la période Covid qui a été donc entre guillemets où le Covid au lieu d'avoir l'effet d'empêcher des plaintes d'être posées, on imagine, et ça a été le cas pour d'autres violences domestiques, donc on s'appuie là-dessus pour faire cette hypothèse, que les 20% restants, ils auraient peut-être dû à la période Covid où le confinement a mis en promiscuité des victimes et des agresseurs. Que ça soit des parents qui pétaient entre guillemets borderline, qui pétaient les câbles et qui passaient à l'acte, ou des proches où on a fait garder les enfants à cause du Covid, etc. On s'est retrouvé dans des huis clos familiaux, des fermetures d'écoles, des gardes d'enfants qui ont augmenté du coup. C'est une hypothèse. Si, en tout cas, ça pourrait être explicatif de ces 20% restants qui restent à expliquer. Donc voilà le petit tableau que je vous ai fait pour récapituler tout ça, sachant que, comme je vous le dis, le dernier chiffre 2022 est en rouge, puisque c'est les chiffres du dernier trimestre uniquement, donc c'est juste un quart des chiffres pour 2022, sont des estimations créées par nous à partir de ce qu'on a pu constater sur les 20 dernières années. Voilà. Pour les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, le rattrapage partiel pourrait être estimé approximativement à 14%. Donc, si on fait la différence avec la moyenne décennale, mais il reste à quantifier plus exactement avec les chiffres 2023, qu'on n'aura encore peut-être jamais. Donc, par contre, si on fait le même bilan pour ventiler, l'augmentation 2021 qui était de 40% pour les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans se décomposerait en 12% de tendance de fond, 14% de rattrapage de 2020. Donc, peut-être qu'il est. Voilà, que l'effet des plaintes qui ont disparu était moins important sur les plaintes pour agressions sexuelles. Et 14% restants qui pourraient être dus donc à la période Covid pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux données de l'index 4001. Donc toujours une augmentation de 10% sur cette année. L'équipe anti-pédo vous salue bien, on lâche rien, honneur, force et courage. La source est le ministère de l'Intérieur. Et donc voilà pour ça. On va passer maintenant aux chiffres du ministère de la Justice. Sur lesquels on a trouvé donc des données un peu plus importantes, notamment sur la période 2012-2022. Donc on y va, deuxième article, chiffre de la justice 2012-2022, les viols explosent et la réponse pénale diminue. Les statistiques du ministère de la Justice sont effarantes. Donc vous voyez la petite image, 2012-2022, les viols sur mineurs plus 100% en 10 ans, réponse pénale moins 43% en 10 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, les viols sur mineurs qui arrivent dans les institutions doublent en 10 ans. Donc, 10% par an, je vous en ai parlé à l'instant, 12% par an en moyenne. La réponse pénale, elle, est divisée par 2. C'est hallucinant. Alors, c'est le taux de réponse pénale. On va y revenir plus précisément. Ça peut aussi s'expliquer par rapport à l'engorgement des tribunaux, ce qui n'est absolument pas une excuse, évidemment. Dans le sens où on y reviendra, enfin, si d'un coup on a une flambée de gens qui se mettent à tuer les gens dans la rue, des centaines et des centaines de gens dans la rue avec des poignards, vous doutez bien qu'on va mettre des brigades de police sur le coup. Voilà. Ben, les viols soient mineurs, non. Non. On va pas mettre des brigades de juges sur le coup. On va pas essayer de faire avoir une réponse pénale plus importante parce que le truc double, non, on s'en fiche. Ok. On continue. Donc, Wanted Pedo a étudié les statistiques du ministère de la Justice pour mieux comprendre les dysfonctionnements, entre guillemets. C'est le mot politiquement correct, hein, que Wanted Pedo utilise depuis des années, les dysfonctionnements, constatés maintes et maintes fois dans les tribunaux. Le, entre guillemets, manque de moyens entretenu à dessein, selon nous, cache mal le manque de prise en charge de la pédocriminalité en France par les tribunaux. Je vous renvoie pour le manque de moyens, je ne l'ai pas mis là, au pourcentage du PIB par pays qui est consacré à la justice, on est lamentable. En Europe, on a le pourcentage d'argent qui est consacré à la justice le plus bas de tous les pays développés. On est à la moitié des pays voisins, quoi. Enfin, d'Allemagne ou de l'Angleterre. Enfin, c'est complètement pitoyable. Donc, bon, faut pas venir nous dire qu'on a la justice la plus efficace. C'est pas vrai. Sur les durées de procédure, c'est pas vrai. Donc voilà, si on utilise 2 fois moins d'argent, c'est pas parce que on est plus efficace, on est plus fort, on est meilleur. C'est juste parce qu'on ne veut pas que la justice fonctionne, ou au moins le gouvernement est très content de trouver une bonne excuse au fait que la justice ne fonctionne pas en France. Ou pas assez bien, ou pas aussi bien que les voisins. Allez, on continue. Le site internet du service statistique du ministère de la Justice donne accès en téléchargement à un certain nombre de données intéressantes sur le fonctionnement de la justice en France. Wanted Pedo a tenté de retracer dans ses grands volumes le traitement judiciaire des victimes, donc de viols sur mineurs et d'agressions sexuelles sur mineurs, afin de mieux comprendre les situations que nous constatons dans les tribunaux au cas par cas, quand nous on accompagne les familles des victimes. Et aussi, également, pour se rendre compte de savoir si les familles des victimes que l'on accompagne sont les pires affaires de France, qui, à la fin, à force d'être rembarrées par la justice, puis par d'autres assos aussi, nous souvent c'est le cas. Donc en fait, c'est les dossiers les plus incroyables de France. Alors est-ce que voilà, nous on est biaisés parce qu'on voit que cela et que c'est les pires, ou alors si en fait elles sont bien représentatives de ce qui se passe en justice pour ce genre d'affaires, représentatives de ce que subissent les victimes engagées dans un processus judiciaire. Donc on va essayer de faire le point là-dessus. L'origine des données. Alors les données sont issues du ministère de la Justice qui tient les comptes des affaires qui passent par ces tribunaux. Donc voilà, donc les gens, les fonctionnaires dans les tribunaux, ils notent. Voilà, il y a une plainte pour viol sur mineur qui arrive au parquet, voilà ce que ça donne, etc. Donc tout ça est rentré dans une base de données qui est appelée SID pénal. Système d'information dématérialisé, je suppose. Je vais pas regarder, bon, peu importe. C'est le SID pénal, donc ça permet d'avoir là-dessus un outil de requête qui est pas mal, qui est mis en ligne, qui est un peu rudimentaire, mais bon, qui est fonctionnel, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui permet en fait d'interroger et de faire des requêtes dans les infractions qui nous intéressent sur la période 2012-2022. Entre parenthèses, si on avait la même chose sur le ministère de l'Intérieur, nous, on serait contents. Hein, si on pouvait interroger index par index, etc., et puis voir ce qui est fait des plaintes en fonction, enfin, ça, nous, on serait contents d'avoir ça. C'est pas le cas. Hein, les outils de, il n'y a pas d'outil de requête dans le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui a pourtant a priori plus de moyens, qui donne des documents quand même plus chiadés. Voilà. Là, on est sur un outil entre guillemets de base, artisanale. Voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils ont une base de données, ils la mettent sur le site, il y a un outil de requête sur la base de données, mais à la limite, tant mieux, quand on a l'impression d'avoir les mains dans le cambouis, quoi. Ok, donc c'est pas traité, c'est difficile d'accès, ouais, c'est brut, on va dire, voilà, c'est brut. Mais quand on sait s'en servir, bah, c'est pas trop mal. Donc on accède par ce biais à l'ensemble des affaires arrivant aux différents tribunaux, donc au parquet de France. Avec l'origine des affaires, donc ce qu'ils appellent affaires, donc c'est les saisines en fait des tribunaux, par quel intermédiaire, c'est le jargon juridicien, hein, par quel intermédiaire la victime apporte l'affaire devant les tribunaux. Et donc ce qu'ils appellent les suites de l'affaire, ce que le commun des mortels appelle les suites ou les poursuites de l'affaire, eux ils appellent ça donc des orientations données à ces affaires, est-ce qu'il y a une réponse pénale ou non? C'est-à-dire s'il y a une orientation, s'il y a une poursuite de l'affaire qui arrive devant le parquet, ben, ça veut dire qu'il y a une réponse pénale. Ça ne veut pas dire qu'il y a une condamnation, mais il y a une réponse pénale. L'institution se charge de cette affaire, de l'instruire, de regarder ce qu'il y a dedans, etc. Ou pas. C'est-à-dire qu'il y a ce filtre au départ. Ainsi, on a un peu accès aux entrées, entre guillemets, du système judiciaire. On a aussi accès aux sorties du système judiciaire avec les données des condamnations. Donc c'est pas au même endroit, mais je vous donne le lien. Donc là, c'est pas un truc avec des requêtes, c'est juste des bilans annuels très complets, voilà. Donc avec tout dedans, il faut aller fouiller dedans, mais au moins il y a tout, à peu près, on va dire. Donc des condamnations théoriques évidemment, hein, c'est pas les condamnations, c'est les peines prononcées. Quand on dit une condamnation, c'est une peine prononcée par un juge. Ça veut pas dire que c'est ça que vous allez faire réellement physiquement. Sur 2004-2021, donc c'est bien, ça remonte assez loin. Présente partiellement sur le site du ministère. Alors, sur le site du ministère, il manque 2019-2020, mais bon, on a pu les retrouver sur le site data.gouv, donc tant mieux, on a pu compléter le jeu de données pour la période. Donc, en gros, c'était sur, autant sur 2012-2021, c'est les tableurs Excel, donc ça c'était bien. Autant sur 2004-2011, bah, c'était avant, donc c'est juste des archives en PDF où il faut effectivement aller rechercher à la main, un par un, chaque chiffre de chaque année pour chaque crime ou délit. Donc voilà, mais c'est ce qu'on a fait. Les condamnations se basent sur un autre fichier. Donc les affaires qui arrivent dans les tribunaux, c'est le site pénal. Les condamnations, c'est le CJN, le fameux casier judiciaire national. Donc quand vous êtes condamné à une peine de prison, vous avez ce qu'on appelle un casier. Voilà, si vous avez déjà eu à prouver que vous n'avez pas de casier, par exemple, c'est le bulletin numéro 3, etc. Et donc c'est à surtout ne pas confondre avec le FIJAIS, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, qui n'est pas du tout automatique. L'inscription au FIJAIS, quand on est un délinquant sexuel, n'est pas du tout automatique. C'est de l'inscription à la discrétion du juge, et même quand la victime est mineure. Voilà. Par contre, le casier judiciaire national, là, normalement, c'est automatique. Et après, au bout d'un certain nombre d'années, etc., etc., on peut arriver à demander à ce que la mention au casier judiciaire soit enlevée d'un certain type de bulletin, ce que je vous disais tout à l'heure, bulletin numéro 3, 1, 2, 3, etc., qui sont pas accessibles au public, qui sont accessibles qu'à certains nombre de personnes, etc. Néanmoins, vous vous doutez que pour les juges et les policiers, non, les traces sont indélébiles du casier qui n'est consultable que par les juges, les policiers, les gendarmes. Voilà, c'est uniquement pour celui qui est consultable. Ça permet à des gens qui ont un casier long comme le bras, au bout d'un certain temps, s'ils ont arrêté de déconner, et ben du coup, voilà, au bout de 5 ans, 10 ans, d'arriver à pouvoir présenter un bulletin numéro 3 de casier judiciaire vierge, s'ils n'ont plus rien fait depuis un certain nombre d'années, afin de se réinsérer et de pouvoir postuler à voilà, à des endroits où c'est demandé. La durée des affaires provoquant une inertie considérable en termes de données, donc on y reviendra, mais en fait une affaire, donc c'est 9 ans en moyenne, donc ça veut dire que les affaires arrivant au parquet, qui rentrent dans site pénal, elles ne donnent lieu éventuellement à une condamnation, si on devait les suivre une par une, avec une traçabilité, que 9 ans plus tard. Eh oui, donc une affaire qui rentre au site pénal en 2004, potentiellement, elle donne lieu à une condamnation seulement en 2013. Vous voyez? Et donc la condamnation, elle apparaîtra qu'en 2013. Vous voyez? Donc cette inertie, elle est énorme. Et en termes de fiabilité des données, c'est très compliqué à traiter. Voilà, notamment, bah, il y a des appels sur les condamnations par les accusés. C'est ça qui fait que les procédures durent longtemps. En plus de la lenteur de la justice elle-même. Font que et tout ça fait qu'évidemment, bah, le processus judiciaire en lui-même, ça reste une boîte noire. Hein, c'est très compliqué. On a des entrées, des sorties, mais on n'a rien qui peut relier les deux en termes de. On y reviendra, mais en termes d'auteur, en termes d'affaires, etc. À notre sens, seuls les récits particuliers des affaires, donc je vous renvoie à l'onglet presse, tous les articles. Nous, donc, depuis des années, on fait la revue de presse des abus sexuels sur mineurs qui paraissent dans la presse française. On en sélectionne 5 par jour, voilà, parce qu'on n'a pas la capacité de travail de faire plus. Ça représente qu'une affaire sur 300, je crois. Je vous renvoie à un article qu'on avait fait là-dessus, une étude statistique sur les condamnations au travers des affaires qui étaient dans la presse. Moi, c'était intéressant, c'était une manière d'approcher le truc. Et donc, voilà, pour nous, la seule manière de se rendre compte de l'humain et de la broyeuse judiciaire pour les mineurs qui sont liés à ça, qui subissent des violences sexuelles, c'est d'aller voir, de lire, voilà, vous lisez une semaine, 3-4 jours, vous lisez les affaires une par une, vous lisez un certain nombre d'articles, vous aurez vite compris comment ça se passe. Donc, seuls les récits particulier des affaires dans la presse, où l'accompagnement des victimes, donc ou des affaires qu'on a nous accompagnées, permettent de comprendre les mécaniques institutionnelles et humaines qui y président et comment ça se passe à l'intérieur de cette boîte noire concrètement. Les liens avec les avocats, les allers-retours, l'usure, etc. Néanmoins, on peut tout de même, grâce aux chiffres présentés dans cet article, faire une sorte de bilan sur les grandes masses qui nous dégagent des biais particuliers, puisqu'il y a tellement de volume, on parle de dizaines et de dizaines de milliers de cas, donc ça nous met un petit peu au-dessus de la mêlée, entre guillemets, et révèle en relief donc des fonctionnements culturellement bien ancrés au sein des tribunaux français. Sur de telles masses, on ne peut pas dire « Ah non, mais c'est tel juge, c'est tel tribunal, c'est... non, mais c'était comme ça, c'était la culture des juges dans les années 60, vous comprenez ?» Ou voilà, non, 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 en fait, ça marche pas. C'est pas possible. Là, on est en 2023 maintenant. Donc forcément, les chiffres qui sont révélés à l'échelle nationale sur tous les tribunaux, toutes les polices, toutes les gendarmeries de France, c'est pas juste un problème particulier. C'est un problème culturel, c'est un problème systémique, c'est un problème de la justice française en général, d'accord? C'est une remise en question de la structure, de la manière dont ça fonctionne. C'est pas que la formation des juges, ce qui est un problème, hein, mais c'est pas que ça. C'est pas juste un tel, le manque de moyens, je sais pas quoi, c'est pas vrai. Donc, nous utiliserons également des données, des faits constatés par les services de police et de gendarmerie, comme dans les articles précédents, dont je vous renvoie notamment à celui que je viens de dénoncer et à des chiffres plus vieux. Le chiffre en rouge pour 2022 est issu de cet article, donc je viens de dire, voilà, je l'ai déjà dit, il a été obtenu grâce à, parce qu'il est plus actualisé, grâce à des modélisations sur octobre, sur septembre, octobre, novembre, décembre 2022. Donc là, je vous mets donc le résultat du travail d'aller chercher les données. Donc c'est le jeu de données principales que nous avons obtenu pour respectivement les viols sur mineurs, les agressions sexuelles sur mineurs. Donc vous voyez, il y a des trous dans les données, hein. Ministère de la Justice, on n'a pas les données pour 2004-2011, mais on a les condamnations. Pareil, 2022, on n'a pas les condamnations, mais on a les arrivées au parquet et aussi les index 4001. Bon voilà, pour les agressions sexuelles, pareil. Donc vous voyez, finalement, on se retrouve à avoir des données complètes sur ce qui nous intéresse uniquement pour la période 2012-2021. Et normalement, voilà, et c'est pour ça qu'il y aura un certain nombre d'analyses qui seront faites que sur cette période, puisqu'on peut trouver les données que sur cette période au total, à la fois pour l'index 4001, à la fois pour ce qui rentre dans la justice, à la fois pour ce qui sort de la justice. Maintenant qu'on a une idée des données qui sont traitées, de comment elles sont faites, de ce qu'on a en main, on peut évoquer les limites de ces données. Donc déjà, le recouvrement entre l'index 4001 qui aborde deux types d'infractions. Donc l'index 4001, c'est les polices-gendarmerie, les faits constatés. Donc on a l'index 47, viol sur mineur, et l'index 49, harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles contre des mineurs. Donc ça, c'est les index, entre guillemets, du ministère de l'Intérieur. Donc le recouvrement entre ça et ce qui est dans le ministère de la Justice, qui ressemble mais pas tout à fait, vous allez voir, dans le ministère de la Justice, on a respectivement les deux dénominations retenues pour la justice, car les plus massives, donc quand vous regardez différents index, c'est ceux qui regroupent, on va dire 80-90% des actes. Donc le premier donne pas trop lieu à discussion, c'est l'index 11303 qui s'appelle viol sur mineur. Bon, là c'est le même énoncé. A priori, on est raccord sur ces deux-là. C'est voilà, là a priori, on est sur quelque chose de fiable. Peut-être la limite ou le petit questionnement, c'est sur l'index 24507 qui s'appelle atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes pour le ministère de la Justice. Alors, on n'a pas pu trouver d'éléments qui tentent de quantifier le rapprochement entre les deux jeux de données et les différents flux de ces différentes nomenclatures. Voilà, je sais pas si ça a été fait. Nous, en tout cas, dans nos recherches, on n'a pas trouvé voilà, à l'époque où il y avait l'INHESJ, est-ce qu'il y avait une perméabilité, une discussion entre les statisticiens des deux ministères, comment on arrivait à reconstituer en fait un même phénomène, hein, parce que c'est pas parce qu'on regarde avec un œil de policier ou un œil de juge que ça change la nature des faits ou les actes commis sur les enfants. Voilà, c'est bien la même chose dont on parle. signalant que la justice donc retient aussi comme catégorie peut représenter, donc pas étudié ici, donc il y a d'autres catégories, donc je vous les mets là dans le tableau. Donc il y a atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes, donc c'est celle qu'on a retenue, qui est la plus en volume la plus importante. Mais on a aussi atteinte sexuelle sur mineur sans circonstances aggravantes. Donc en gros, on est sur de l'atteinte sexuelle. On a autre atteinte et aux mœurs sur mineur. Donc si on est sur de l'atteinte aux mœurs, mais que c'est ni de l'atteinte sexuelle, ni de l'agression sexuelle. Bon, là en gros, a priori, on est sur de l'exhibitionnisme, on est sur de l'attentat à la pudeur ou des choses comme ça. Voilà. Donc, et puis même en termes de volume, je vous dis, c'est pas énorme. Les peines pour ces dénominations de délit sont souvent moindres que celles pour les... Et en plus, les peines pour ces délits-là, sans circonstances aggravantes et atteinte aux mœurs, sont souvent moindres que la catégorie retenue pour l'étude. Donc ça, en plus, c'est des peines qui sont petites. Donc ça ne minimise pas les condamnations. Au contraire, hein, on enlève de notre jeu de données les catégories du ministère de la Justice qui donnent lieu à des peines faibles. Hein, donc c'est encore plus prudent. Ci-dessous, je vous mets la dénomination pour votre culture des délits qui sont classifiés sous atteinte à la famille. Voilà, donc vous voyez les différentes... caractéristiques, sachant, ah oui, qu'il y en a encore une dernière, bon, je l'ai pas mis dans l'article, qui s'appelle agression sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité. Alors là-dedans, bon, il n'y a pas un gros volume, mais a priori, il y a du mineur aussi. Le problème, c'est que par ascendant ou personne ayant autorité, en fait, ça peut tout à fait être une agression sexuelle d'un majeur sur un majeur. Ça peut être un patron sur un employé, ça peut être un père sur sa fille, mais sa fille est majeure. Ça peut être, vous voyez, donc en fait, là-dedans, on sait pas ce qu'il y a, donc on va pas chercher à travailler sur ce chiffre, puisque certainement qu'il y a une partie, c'est des agressions sexuelles ou des incestes, mais a priori on peut pas le savoir, et bon, voilà. Donc on revient à nos limites, donc la qualité de la base de données, en plus donc de cette discussion que on va dire, on peut un peu discuter sur atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes. Est-ce que ça recouvre totalement ou partiellement agression sexuelle et autres agressions sexuelles contre mineurs? Néanmoins, si ça vous chiffonne, vous prenez viol sur mineur. Là, il n'y a pas de discussion. Ok? Donc, si ça vous chiffonne, vous enlevez tout ce qui est fait dans cet article sur agression. Vous regardez que les viols. Comme ça, vous êtes tranquille. Alors, la qualité de la base de données semble assez médiocre. Ou à minima s'appuyer sur plusieurs bases de données qui ne se recoupent pas visiblement entre elles. Il y a quelques documents qui évoquent des manquements à l'enregistrement des affaires dans les différents logiciels de l'administration. Ainsi, sur la période 2012-2022, au niveau national, le nombre de viols sur mineurs orientés par le parquet, donc des viols sur mineurs sur 10 ans, sur tous les tribunaux de France, qui arrivent au parquet de France, est de 73 590, quelle que soit l'orientation, poursuite ou non. Alors, ce qui est bizarre, c'est que le nombre de viols sur mineurs qui arrivent au parquet, lui, il est de 111 997. Et si on ventile par juridiction et qu'on refait la somme pour contrôler le nombre de viols sur mineurs arrivés à tous les parquets de France, là, on est à 138 665. Donc là, vous commencez à comprendre qu'il y a quand même, il y a quand même un souci. C'est quand même un souci sur les chiffres, quoi. Et notamment que là, ce sont plus des écarts, c'est pas juste. Là, c'est 20% la différence. Donc, il y a quand même un gros problème en termes de base de données. Est-ce qu'il y en a une qui est moins remplie que les autres? Quelle est la mieux alimentée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des doublons? Ça paraît quand même difficile. Là, on est sur des entrées sur des tribunaux. Je vois pas comment on pourrait avoir des plaintes sur mineurs qui sont déposées dans plusieurs tribunaux en même temps. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des appels? Oui, on peut imaginer donc un tribunal, il arrive, il dit, ah bah, il y a un nouveau viol sur mineur, alors que ça a été déjà déclaré en première instance dans un autre tribunal. Bon, ça paraît possible. Après, avec combien d'années d'écart? Oui. Donc bon, c'est vrai que y a des questions qui se posent. On a essayé de les élucider, vous verrez, mais c'est quand même assez problématique. Une éventuelle omission des dom-toms dans le chiffre national n'explique pas du tout cet écart. On est de l'ordre de 4 000 sur 10 ans, donc c'est pas ça qui fait la différence. Donc pareil, là, l'écart entre 111 000 et 140 000, vous voyez, c'est ça qui fait 20%, hein. Je parlais même pas du chiffre de 73 000 qui paraît extrêmement bas. On considérera que ce sont bien les tribunaux qui comptent les affaires et que c'est bien le chiffre total des juridictions qui paraît le plus probable. Bon, évidemment. On peut discuter là-dessus, voilà. Pour d'autres, par exemple, on a essayé de vérifier, donc pour d'autres délits, d'autres crimes qui sont pas sexuels, en fait, on a aussi des écarts, mais ils sont plutôt minimes. Donc c'est assez bizarre. Pourquoi pour des vols, pourquoi pour des agressions, enfin vous voyez, à vous, si ça vous intéresse, allez faire le truc. Pourquoi on se retrouve avec des écarts qui sont pas énormes quand on prend le national ou la somme des juridictions sur d'autres délits et d'autres crimes, alors qu'on a un tel écart sur les abus sexuels sur mineurs? Je vous avoue, j'ai pas pris tous les index, je me suis pas, évidemment, on n'avait pas ni le temps ni l'envie d'aller faire ça une cinquantaine d'autres délits ou crimes. Si vous le faites, si vous voulez le faire, avec grand plaisir, on publiera ça dans une annexe ou dans une note. Avec grand plaisir, si vous voulez prolonger notre travail et que vous en avez les capacités, évidemment, on n'est pas contre un coup de main. Donc tout ça, on se posait des questions. Quand on clique sur l'aide du ministère, donc il y a un endroit pour poser la question, on tombe sur un email du service statistique du ministère de la Justice. Donc bon, bah, on a envoyé l'email hein, pour demander notamment comment expliquez-vous l'écart entre les viols sur mineurs recensés au niveau national sur 2012-2022 et puis par juridiction, etc. Donc, eh ben, l'email, en fait, il est invalide. Il y a juste, et voilà, ils n'ont pas changé l'email sur leur site. Donc, et en fait, moi, j'ai essayé de les contacter. Il n'y a pas de contact direct, il n'y a pas d'email. Voilà, c'est très compliqué d'arriver à joindre le service statistique du ministère de la Justice. Voilà, j'ai essayé de laisser un mail sur l'adresse de contact du ministère de la Justice, adressé particulièrement au service statistique. On n'a rien eu. Dans le même esprit, on n'a pas eu de réponse. Pour la blague, on rira jaune sur le logiciel unique de gestion des procédures pénales des TGI, des tribunaux de grande instance, qui était appelé Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est la chaîne applicative supportant le système d'information orienté procédure pénale et enfants. Donc ça ne veut plus rien dire, mais il fallait faire l'acronyme Cassiopée. La France et ses acronymes bidons, je vous passe les noms des opérations militaires, c'est toujours génial. Donc il y avait quand même le mot enfant hein, dedans, donc on est content de l'apprendre. Donc Cassiopée qui se base sur le CID. Donc il semble qu'il est quand même peu utilisé et critiqué en interne. Je vous envoie un blog, cyberjustice.blog, donc qui parle de ça. Donc tenez-vous bien, ce logiciel ne comprend pas d'identifiant unique, donc même anonymisé, hein, un identifiant unique, un chiffre, pour les auteurs de crimes ou de délits. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Ainsi, on ne peut pas étudier le parcours d'un criminel, par exemple s'il fait des récidives, entre deux affaires différentes ou entre deux juridictions différentes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la bêtise des concepteurs de ce logiciel. Or, peut-être que c'était la CNIL ou je sais pas quoi, hein, qui leur a mis des bâtons dans les roues. Je dis juste que là, on est face à un logiciel qui est censé avoir de la traçabilité sur les cas des victimes et des auteurs. Il n'y a aucune raison, voilà, qu'on puisse avoir un dossier complet quand on fait une requête, qu'on ait un juge ou un juge d'instruction, enfin, je sais pas. On fait une requête, on trouve l'ensemble des choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est le casier judiciaire. Bah, non, pas vraiment, en fait. Ça, c'est que les condamnations. Donc, en fait, on aimerait bien savoir aussi en avoir un peu plus. Alors, j'espère que ça existe autrement. J'espère que c'est fonctionnel autrement pour nos pauvres juges d'instruction et voilà et gendarmes qui essaient de chercher un peu sur quelqu'un quand ils ont un auteur qui arrive devant eux. Enfin bon. Donc, on peut pas en fait avoir une continuité de la donnée. On peut pas avoir traçabilité. On n'a pas d'identifiant unique. On peut pas avoir le pédigré des gens. Voilà. Bon, bah c'est. Alors que pourtant, cette base de données, elle est pas destinée au grand public, hein. La Cassiopée, c'est que si vous travaillez et que vous avez des accréditations dans les tribunaux, que vous avez le droit d'y avoir accès, quoi. Formidable. Donc c'est indiqué, hein, vous verrez, c'est dit comme ça, hein, la difficulté d'étudier la récidive, la réitération. Eh ben oui. Alors, la traçabilité des brosses à dents, c'est au top. Hein, si vous avez un lot de quoi, de lasagne au cheval périmée, là on est capable de rattraper tous les produits, tous les lots de produits, c'est bien marqué, il n'y a pas de problème. On les rappelle, on sait à qui on les a vendus, à quel endroit, si c'était payé en carte bleue ou en chèque, etc. Voilà. Mais non, les criminels, non. Voilà, ça, la traçabilité des criminels, c'est pas à l'ordre du jour. Juste quand même, enfin, je suis pas un spécialiste des bases de données, mais l'identifiant unique, c'est la première chose qu'on apprend lors de la construction d'une base de données, quoi. Donc là, les mecs se sont dit, tiens, on va faire un identifiant unique, mais pas pour l'auteur. On va faire un identifiant unique, mais juste pour l'affaire. Ah, d'accord. Et donc là, on peut même supposer que si l'affaire, elle est jugée en appel, ça se trouve, il y a un deuxième identifiant pour la même affaire, parce que c'est pas le même tribunal. C'est possible, hein, je fais l'hypothèse. Donc mais c'est la première chose qu'on vous apprend dans la construction d'une base de données, Access ou ce que vous voulez. La première chose qu'on vous dit, c'est l'identifiant unique, le choix de l'identifiant unique, pour avoir une traçabilité et notamment avoir des systèmes de requêtes efficaces. Et c'est tout à fait anonymisable. Vous voyez? C'est pas le problème. L'identifiant unique, c'est un numéro unique qui est donné. Et derrière, vous avez des champs nom-prénom, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les avoir, ces champs. Il suffit de ne pas les mettre accessibles dans les requêtes. Il est où le problème? Enfin, bref, allez, passons. On remarquera aussi qu'on ne dispose d'aucune donnée sur les COM, les collectivités d'outre-mer, que sont par exemple la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie. Et c'est bien dommage de constater de tels angles morts dans la République, mais c'est pas la première fois. On a les DOM-TOM parce que c'est des, enfin voilà, notamment les DOM parce que c'est des départements d'outre-mer. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur les indicateurs statistiques pénaux, voilà, je vous ai mis carrément le lien du ministère. Si on a fait des erreurs, n'hésitez pas à le dire. Ou si on a mal compris des choses, vous avez tout pour vous amuser.